La résurrection de Lazare entraîne la condamnation à mort de Jésus. La résurrection, c'est-à-dire le retour à la vie de Lazare, signe l'arrêt de mort de Jésus. À diverses reprises dans l'Évangile, les opposants à Jésus ont été pris de rage, saisis de fureur, jusqu'à vouloir souhaiter sa mort. Ils ont eu des envies de meurtre. La suite du texte qu'on vient d'entendre est d'une autre nature. Vous avez entendu la dernière phrase, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. L'évangéliste poursuit, mais certains s'en furent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Alors les autorités se réunissent, ils tiennent une sorte de, on dirait aujourd'hui une sorte de conseil de défense, dont l'issue est sans appel. Ils prennent la décision de le tuer. Ce n'est plus un mouvement d'humeur et de rage, c'est un projet délibéré, c'est une décision. Dans la Bible latine, dans la Vulgate, le mot nous est familier en français, cogitaverunt, cogiter. C'est leur projet, c'est ce qu'ils ont en tête. Et commence le combat que la séquence du jour de Pâques, ce que nous entendons au jour de Pâques, résume de façon magistrale. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le Christ, le maître de la vie, en sortira vainqueur, c'est ce que nous célébrons à chaque messe. Non sans passer lui-même par la mort pour, selon toujours les termes de la séquence, réconcilier l'homme pécheur avec le Père. À la victime pascale, chrétien offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Jésus a donné sa vie pour Lazare, pour son ami Lazare, mais pas seulement pour Lazare, pour chacun de nous, c'est ce que nous appelons le mystère de la rédemption, qui est le plus grand don de Dieu, l'offrande de lui-même en son Fils Jésus-Christ. Voyez dans ce récit comment Jésus agit en parfaite connaissance de cause. Lorsqu'il apprend la maladie de Lazare, il prévient ses disciples que cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ses disciples ne comprennent pas. Jésus attend le troisième jour avant de se rendre sur place, sur les lieux, et là il retrouve les deux sœurs qui successivement ont la même réaction, la même phrase. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce qui est une façon délicate de dire qu'elles le tiennent pour partie responsable. J'avais projeté pour ce carême de vous parler du pardon tout au long de ces dimanches de carême. C'est ainsi que j'avais commencé, puis les circonstances en ont voulu autrement, puisque dimanche dernier, je n'ai pas pu détailler avec la guérison de l'aveugle-né ce qui est constitutif du pardon, c'est-à-dire la joie, la puissance de vie, la joie de la réconciliation. Mais nous voici avec cette parole des deux sœurs, confrontées à la plus grande difficulté du pardon. Qu'est-ce qui empêche le pardon ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous réconcilier avec Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de nous réconcilier entre nous? Qu'est-ce qui nous empêche même de faire la paix avec nous-mêmes? C'est la conviction profonde, conviction sourde, que nous ne sommes pas pour grand-chose dans ce qui nous arrive. Que nous ne sommes pas vraiment responsables de notre vie. La parole, la même parole de Marthe et de Marie au Seigneur, « Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort », signifie « Avoue que c'est quand même un peu de ta faute. Nous l'entendons plutôt à contrario, c'est l'une des phrases les plus courantes d'exaspération dans la vie, que ce soit en famille, en couple, en communauté, dans tous les groupes. C'est jamais ta faute! C'est jamais ta faute! Avec de multiples variantes. Pourquoi t'as fait ça? Ou encore même, j'y crois pas. Non, mais j'y crois pas. Le principal obstacle à notre réconciliation avec Dieu est notre propension à penser que finalement tout ça, c'est de sa faute. C'est la faute au bon Dieu. Alors, attention, on ne va pas passer à l'extrême inverse et faire endosser à chaque personne le malheur, le mal, le péché de l'humanité. On va d'autant moins le faire que cela, une personne l'a fait, une seule personne l'a fait une fois pour toutes, le Christ Jésus. Le Christ s'est fait péché pour nous, non seulement pour nous sauver, mais pour que nous comprenions en quoi consiste réellement le pardon. En quoi consiste le pardon et pour que nous puissions le suivre sur ce chemin de vie, nous puissions vivre nous-mêmes cette réconciliation. Nous pensons souvent que le pardon consisterait à regretter ce que l'on a fait de mal. Déjà le reconnaître, l'accepter, l'assumer du mieux qu'on peut pour pouvoir en être, on va dire pardonné, exempté, on pourrait même dire débarrassé. Et ce sont effectivement trois composantes essentielles du pardon que sont le regret, ce qu'on appelle la contrition, l'aveu, la reconnaissance, et puis l'absolution, auquel il manque cependant le raccomplissement, qui est la réparation. Je vais prendre un exemple, banal, triste. Un homme trompe sa femme. Sa femme l'apprend. L'homme le reconnaît, elle lui dit qu'elle l'aime. Est-il pardonné? Non. Non, s'il s'est excusé avant tout pour avoir la paix, pour retrouver une situation tranquille, sans avoir vraiment pris la mesure de son acte, de sa trahison. Non, s'il n'a pas mis fin définitivement à la liaison. Et surtout, non, tant qu'il n'aura pas posé des actes concrets de réparation à la mesure de la souffrance de son épouse, à la mesure surtout de l'offense faite à l'amour, aussi bien l'amour humain que l'amour divin. Le pardon n'est effectif, plus exactement, le pardon n'est accompli que lorsque la faute a été réparée. Nous disions, dans un langage ancien mais qui est toujours actuel, lorsqu'elle a été expiée. Chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, c'est quoi quelque chose de mal? De contraire au commandement de Dieu, nous tirons l'humanité vers le bas. Alors il ne suffit pas de le reconnaître, de le regretter, de réagir, ni même d'en être excusé. Encore faut-il remonter l'humanité vers le haut. Il y a une phrase qui permet de le comprendre, qui est une expression très courante. « Oh, toi, tu cherches à te faire pardonner. » Toi, tu cherches à te faire pardonner, ça veut dire « Toi, tu sais que je t'aime. » Tu m'as offensé, on pourrait même dire, le terme est trop fort, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Tu m'as crucifié. Moi, pas que moi, à travers moi, toute l'humanité. Et tu cherches à réparer. Jésus a pris sur lui nos péchés. Il s'est offert lui-même, librement, volontairement, totalement, en sacrifice d'expiation. Afin que nous puissions lui remettre nos péchés, lui confier nos péchés, et notre chemin de réparation. Aucune sanction, aucune punition ne donne le pardon. Le pardon, c'est un acte d'amour réciproque. Lorsqu'une personne se comporte mal, on va dire qu'il y a trois solutions. La plus radicale, ça consiste à interrompre la relation, à l'exclure. Sauf que c'est pas toujours possible, surtout pas dans les temps de confinement. C'est pas possible quand on vit ensemble, qu'on appartient à la même communauté, que ce soit une communauté de vie ou de travail. Alors qu'est-ce qui se passe le plus souvent? On ne se parle plus. C'est brillant. La belle affaire. La deuxième solution, la plus fréquente, elle cherche et elle espère l'oubli. On imagine que le mal s'évapore. On attend que la souffrance s'estompe, que la personne oublie, que ça revienne un peu comme avant. Alors il y a des expressions qui le disent, la poussière sous le tapis ou le cadavre dans le placard. Sauf que dans les cas graves, le traumatisme peut exploser des années, voire des dizaines d'années plus tard. La troisième est la seule solution. Et la réparation, où la personne qui prend conscience du mal qu'elle a commis s'engage et surtout s'emploie à réparer ce qu'elle a abîmé. On va dire, c'est pas toujours possible. Si, c'est toujours possible. Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné, il n'y a aucun péché qui ne puisse être réparé. Dans cette vie où, effectivement, dans certains cas au purgatoire, mais surtout dans la communion des saints, il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné. Il n'y a aucun manque d'amour qui ne puisse être rétabli par un acte d'amour plus grand encore. On va dire, mais quand quelqu'un meurt, on ne peut pas le ressusciter. Eh bien si, c'est justement l'évangile de ce dimanche. C'est pour ça que Jésus ramène Lazare à la vie, pour montrer à ceux qui en douteraient que la vie ne s'arrête pas à la mort physique. La vie, ce n'est pas un bien consommable qui fait qu'il faudrait se résigner à jeter ce qui est cassé, ce qui est abîmé, on s'en débarrasse. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit... On va dire d'une certaine façon, depuis la révolution industrielle, qui est là aussi la révolution athée, où l'humanité s'acharne à fabriquer et à jeter. On fabrique, on jette. Et on transforme la terre en cette vaste décharge de déchets, pas seulement matériels, également spirituels. Ce sixième continent, ce continent des poubelles flottantes, qui est en passe de nous submerger. Ce n'est qu'une petite allégorie, une parabole de nos péchés. Allons dire, je ne vois pas pourquoi c'est moi qui le ramasserai, puisque ce n'est pas moi qui l'ai jeté. Le nom de l'enfer dans l'Évangile, c'est la géhenne. La géhenne de feu qui était la décharge à ordures à Jérusalem. Et pour rester dans des images compréhensibles, le sacrement du pardon, c'est le tri sélectif. Il y a tous les petits péchés quotidiens, ce qu'on appelait les péchés véniels, qui brûlent facilement, qui sont brûlés d'ailleurs à chaque messe. Qui sont brûlés à chaque messe, pour autant qu'ils se soient présentés, ramassés, je confesse à Dieu, qu'ils soient effectivement reconnus, pas abandonnés, vous savez, comme les papiers gras en pleine nature. Et puis, il y a les fautes graves qui nécessitent un traitement particulier, une réparation spécifique, une pénitence concrète. C'est ce que demande parfois le fidèle au prêtre, au confesseur, quelle est ma pénitence? Parfois, moi, je réponds, tous les jours à cette heure-ci, pendant une semaine, il faut toujours que ce soit réaliste, tous les jours à cette heure-ci pendant une semaine, vous ferez mémoire du pardon reçu. Vous reprendrez conscience et de l'amour de Dieu et de la responsabilité qui nous est confiée. Vous prierez, puis vous laisserez l'Esprit Saint vous inspirer une œuvre concrète, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, aussi bien des œuvres matérielles que spirituelles. Mes amis, nos péchés ne sont pas biodégradables. Il est temps de les ramasser pour les brûler au feu de l'amour de Dieu. Le feu de l'amour de Dieu, c'est ce que nous célébrerons à Pâques, le feu pascal de la résurrection, pour que s'accomplisse réellement le mystère de la rédemption. C'est le temps de l'expiation.